Il est 22h, vous êtes bien sûr Europe 1.
C'est un peu dommage, cette barrière du masque. Pour un premier contact avec les élèves, c'est pas forcément aisé. On va s'adapter parce qu'on est une profession qui s'adapte tout le temps.
À quelques heures de la rentrée, les enseignants philosophent sur le port du masque et ses contraintes. Ce qui est sûr, c'est que dans les salles de profs, on ne parlait que de ça aujourd'hui. Des enseignants masqués qui ne masquent pas leur inquiétude sur les autres règles à appliquer, notamment le lavage des mains des élèves obligatoire avant chaque entrée en classe. Ils imaginent déjà la cohue dans les sanitaires et se demandent comment ils vont gérer ça. On connaît enfin le nouveau protocole sanitaire qui doit entrer en vigueur demain pour les entreprises. Des dérogations en fonction de la configuration des locaux, mais surtout de l'importance de la circulation du virus dans votre département. C'était une promesse. Emmanuel Macron est depuis ce soir de retour à Beyrouth, moins d'un mois après les terribles explosions. Le Liban qui a depuis aujourd'hui un nouveau Premier ministre inconnu du grand public. Dans ce journal également, Veolia veut s'offrir Suez, 20 heures de retard pour les passagers d'un TGV Hendaye-Paris et Alaphilippe, toujours en jaune à l'issue de la troisième étape du Tour de France. La météo de demain, grisaille et averse dans l'Est, mais retour du soleil partout ailleurs, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé en nette baisse ce soir, moins 1,11% à 4 947 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de Boursier.com. L'interview éco à 22h20, nouveau protocole sanitaire pour les entreprises, plan de relance. Carole Ferry reçoit ce soir François Asselin, le président de la CPME. Et puis on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il aurait dû être dévoilé il y a déjà plusieurs jours. Cette fois, ça y est, on connaît enfin le protocole sanitaire qui doit entrer en vigueur demain pour les entreprises. Le document de 25 pages a été publié en début de soirée. Le port du masque sera obligatoire dans toutes les entreprises, mais il y a des exceptions. Clément Le Saffre.
Le principal critère retenu par le gouvernement pour ces assouplissements, c'est la vitesse de circulation du virus. La généralisation du port du masque sera plus ou moins contraignante en fonction de la couleur de votre département. En zone verte, c'est-à-dire dans les trois quarts des départements de métropole, il sera possible d'enlever son masque quelques minutes en espace clos. Si la pièce est bien aérée et si les postes de travail sont séparés par des écrans en plexiglas, le masque pourra alors être remplacé par une visière. En revanche, dans les 19 départements en zone rouge, pour enlever son masque, il faudra déjà respecter tous ces critères. Plus trois autres, les locaux devront être vastes, équipés d'un système de ventilation par le haut très performant et les salariés devront disposer de 4 mètres carrés par personne. Enfin, il y a le cas de ceux qui travaillent en extérieur ou en atelier avec des métiers nécessitant parfois des efforts physiques intenses. Pour eux, le port du masque sera nécessaire uniquement quand le respect de la distance d'un mètre sera impossible. Ce nouveau protocole va nécessiter quelques adaptations pour les entreprises dans un délai très court, mais les partenaires sociaux ont obtenu quelques jours de tolérance le temps que tout se mette en place.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1, et à ce sujet ne manquez pas dans une vingtaine de minutes l'interview éco. François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, sera l'invité de Carole Ferry. Rentrée masquée donc au travail, rentrée masquée également à l'école. 870 000 enseignants ont retrouvé les salles de classe ce lundi. Ils ont préparé le retour des 12,5 millions d'élèves demain dans un contexte inédit, celui de l'épidémie et ses règles sanitaires strictes. Victor Delande, vous avez suivi ce matin cette pré-rentrée des profs dans un collège-lycée parisien. Les années précédentes, on parlait du programme, de l'emploi du temps, des classes surchargées. Cette année, Victor, un seul sujet de discussion.
Le masque, bien évidemment, avec toute une série de questions. Comment faire classe de musique quand les élèves sont masqués? Et les cours de théâtre, les cours de chorale? Comment faire pour montrer la prononciation des langues aux élèves? Des questions qui restent souvent sans réponse précise. On verra à l'usage comment s'adapter. Voici la version donnée le plus souvent par l'approviseur. Pour sa toute première rentrée scolaire, Jérôme Jacobé, professeur d'histoire, appréhende forcément ce port du masque.
C'est un peu dommage, cette barrière du masque. Pour un premier contact avec les élèves, c'est pas forcément aisé. On aimerait les voir, bon, même si on a les photos, c'est pas pareil. Notre principale préoccupation, c'est d'être entendu et entendu par tous. On va s'adapter parce qu'on est une profession qui s'adapte tout le temps.
Tous les professeurs se posent des questions, forcément. Certains quand même se laissent aussi aller à plus d'optimisme. C'est le cas de Monsieur Hollas, professeur d'histoire-géographie. Très malheur, très serein avant la rentrée de demain.
On l'a déjà fait en juin, le port du masque, le dialogue avec les élèves. Les deux premières semaines, on fait toujours les mêmes choses en fait. Préparer le cahier, donner les règles de fonctionnement, les contrôles, les interros. Non, je pense que ce qui les inquiète le plus, c'est les contrôles et les interros. Pour ça, je vais réannoncer direct la semaine prochaine, ils ont une interro.
Si les élèves du professeur Hollas du Collège Rodin nous écoutent, donc interro la semaine prochaine. Mais rassurez-vous, les professeurs ont tous un point commun. Ils sont ravis de retrouver leurs élèves demain, tous les élèves et plus uniquement des demi-groupes.
Reportage signé Victor Dolande pour Europe 1. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, assure que cette rentrée a été bien préparée et que normalement, il ne manquera pas demain de professeurs dans les classes. Le masque sera donc obligatoire pour tous à l'école, professeurs et élèves dès le collège, mais ce ne sera pas la seule règle à respecter dès demain. Il y a aussi celle du lavage des mains, obligatoire plusieurs fois par jour. Autant dire que ça va bouchonner au lavabo. Nicolas Feldman.
Cela doit devenir un rituel, se laver les mains au savon dès l'entrée à l'école, avant les repas, après le passage aux toilettes. Mais dans beaucoup d'établissements, les risques d'embouteillage existent au lavabo. Igor Garnkarzik est principal dans un collège de Caen.
Ça va être compliqué parce que des points sensibles, ce sont les temps d'attente dans les couloirs, ce qui amène à essayer d'étager les rentrées, soit par niveau, soit par classe. Donc ça va être un moment critique sur lequel il faudra une grande rigueur d'organisation.
S'organiser, mais aussi s'adapter. Là où il n'y a pas de point d'eau, du gel hydroalcoolique sera disponible. À Sceaux, dans les Hauts-de-Seine par exemple, tout est prêt dans les 8 écoles de la ville. Isabelle Devers, directrice générale des services.
Nous avons placé des flacons de gel hydroalcoolique avec bouton poussoir. Et aux entrées de toutes les écoles, nous avons à disposition à peu près 24 distributeurs de gel. Donc ils nous ont coûté en tout 6 000 euros. Et donc environ tous les 3 jours, nous devons remplir de nouveau chaque distributeur de gel.
Pour éviter de manquer de gel dans les prochaines semaines, la ville a déjà passé de nouvelles commandes. L'objectif, c'est d'avoir toujours 2 mois de stock d'avance.
Reportage signé Nicolas Feldman. À noter que Lyon généralise à son tour le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, mesure qui entrera en vigueur dès demain matin sur tout le territoire lyonnais ainsi que Villeurbanne. Une tolérance sera accordée aux cyclistes et joggeurs. Un peu plus de 3000 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures en France. Aux États-Unis, cette fois, le cap des 6 millions de contaminations depuis le début de l'épidémie a été franchi aujourd'hui. C'est de loin le pays le plus touché en valeur absolue, avec plus de 183 000 morts sur son sol. Il en avait fait la promesse, Emmanuel Macron, de retour à Beyrouth moins d'un mois après sa première visite au surlendemain des terribles explosions qui avaient dévasté la capitale libanaise. Le président français a atterri en début de soirée dans un pays, le Liban, qui découvre depuis ce matin son nouveau Premier ministre, Mustapha Adib, inconnu du grand public. Il était jusqu'alors l'ambassadeur du Liban en Allemagne. À peine arrivé à Beyrouth, Emmanuel Macron l'a appelé à former au plus vite un gouvernement de mission. On l'écoute.
J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures, qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient aucunement ni de l'approuver ni de l'adouber. C'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu. Mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais. Réforme des marchés publics, de lutte contre la corruption, pour la justice, pour la réforme de l'énergie et de l'électricité, pour une meilleure gestion du port. Autant de réformes indispensables sur lesquelles, de mon côté, je me suis engagé à ce que, si elles sont prises par le plus vite possible ce gouvernement de mission, la communauté internationale, et évidemment en premier chef la France, puisse s'engager pour être en soutien du Liban et du peuple libanais.
Le président de la République au micro d'Adrien Beck, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth. Le premier vol commercial direct entre les Émirats Arabes Unis et Israël s'est posé en début d'après-midi à Abu Dhabi. L'avion de la compagnie El Al qui a survolé l'Arabie Saoudite transportait une délégation américano-israélienne. Et puis le président bélarusse, persona non grata dans les pays baltes. La Lituanie, l'Estonie et la Lettonie ont inscrit aujourd'hui sur leur liste noire Alexandre Loukachenko et une trentaine d'autres hauts fonctionnaires de son régime pour fraude électorale présumée et répression des manifestants pro-démocratie.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h09 sur Europe 1. Revenons en France avec ce rappel à l'ordre à 48 heures de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. La menace terroriste reste extrêmement élevée sur le territoire. Déclaration de Gérald Darmanin en visite cet après-midi au siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que plus de 8000 personnes sont actuellement fichées pour radicalisation à caractère terroriste et que 32 projets d'attentats ont été déjoués depuis 2017 sur notre territoire. Ne manquez pas à ce sujet demain matin l'interview du ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti répondra aux questions de Sonia Mabrouk à partir de 8h15 sur Europe 1 dans la matinale de Mathieu Béliard. C'est une union qui pourrait accoucher d'un géant pesant plus de 40 milliards d'euros. Veolia, le numéro 1 mondial du traitement de l'eau et des déchets, part à la conquête de son concurrent historique, Suez. Si les deux parties tombent d'accord, la transaction devra encore obtenir l'aval des autorités de la concurrence, car Suez et Veolia sont en effet les deux principales entreprises en France commence à vendre leur service de traitement de l'eau aux municipalités et à l'industrie. Emmanuel Duteil, l'enjeu est colossal pour ces deux entreprises qui ont un passé commun. C'est une longue saga qui pourrait donc se conclure par un mariage de raison.
Veolia, c'est l'ex-compagnie générale des eaux. Elle a été créée en 1853. On considère qu'elle est à l'origine de la première concession d'eau de l'histoire. Elle deviendra un groupe tentaculaire qui servira même de base à la constitution de Vivendi à l'époque. En effet, celle que l'on appelait la CGE, alors deux pôles, la communication et l'environnement. Veolia, nouvellement nommée, prend son indépendance au cours des années 2000 et c'est aujourd'hui le numéro 1 mondial du secteur. Suez, ex-Lionel des Eaux, n'a rien à envier côté illustre passé. L'histoire du groupe débute en effet en 1858 par la création de la Compagnie universelle du canal de Suez. Très vite, elle aussi se centre sur le marché de l'eau. Elle se constitue à coup d'acquisition pour devenir Suez Environnement, puis Suez en 2015. Les deux groupes se sont quasiment toujours affrontés sur tous les marchés, notamment en France. Suez est aujourd'hui le numéro 2 mondial du secteur. En les rapprochant, l'idée c'est de créer un numéro 1 mondial plus fort sur un marché du traitement des déchets en pleine expansion sur fond de transition écologique.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, a noté que le conseil d'administration de Suez pointe ce soir les grandes incertitudes qu'entraînerait son rachat par son rival Veolia. Libéré, délivré, après plus de 20 heures de retard, des centaines de passagers d'un TGV partis d'Hendaye hier après-midi sont arrivés à Paris en milieu de journée seulement. Tout ça à cause d'une série d'incidents exceptionnels, se justifie la SNCF, de multiples défaillances sur des caténaires. Romain Nequet était gare Montparnasse à Paris à l'arrivée de ces voyageurs excédés, mais avant tout épuisés.
Fatigué, désabusé, et enfin, c'est quand même dingue de rester bloqué dans un train... Plus de 20 heures quoi.
Voie 24, les voyageurs hagards, presque désorientés, avancent tête baissée vers le bout du quai. L'épuisement et la lassitude ont pris le pas sur la colère. Isabelle était en vacances à Biarritz. Pour rentrer, le trajet devait durer 4 heures. Elle a finalement passé 20 heures dans le train, un retour brutal.
On a été complètement à l'abandon, impossible de sortir. Donc la chaleur et puis effectivement rien à manger, rien à boire. Des détails, mais plus de papier toilette dans les toilettes. Voilà, il n'y a rien qui allait et on ne nous a pas trop informés.
Une nuit à attendre dans un train bondé, les voyageurs s'étaient installés à même le sol. Le respect des gestes barrières n'était plus la priorité, raconte Corinne.
Ce matin, on a eu un peu de nourriture, un petit déjeuner. On a dû partager des bouteilles de jus d'orange avec des passagers qu'on ne connaît pas. Après, il nous restait plus de 3 heures de trajet où on nous donne des masques alors qu'on a fait 20 heures avant. C'est incroyable, hallucinant.
Corinne devait reprendre le travail ce matin. Cette mésaventure lui aura aussi coûté un jour de congé supplémentaire.
Romain Nequet, attention, si vous avez prévu de vous rendre du côté d'Hendaye ou de Biarritz demain, il faudra attendre demain midi au plus tôt pour un retour à la normale. La normale désormais à Nantes, c'est 30 km/h maximum. C'est la vitesse à respecter depuis ce matin sur plus de 600 km de bitume nantais. Alors ce n'est pas une première en France, puisque c'est déjà la règle à Grenoble, Lille, Rennes ou encore Angers, mais c'est une nouvelle habitude à prendre, Charles Guyard. La mesure est plutôt bien acceptée par les habitants du centre-ville, qui pour beaucoup sont adeptes du vélo, mais elle passe beaucoup moins bien auprès de ceux qui roulent toute la journée, comme les chauffeurs de taxi.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le nouveau code de la route en vigueur à Nantes depuis ce matin, les taxis ont bien du mal à l'accepter, comme Manuel qui hésitera peut-être désormais à prendre en charge un client un peu pressé et pour cause.
Malheureusement, s'il faut rouler à 30, je vous le dis tout de suite. Le client, il va avoir un avion à prendre. Nous, on va faire en sorte qu'il l'ait. Mais par contre, c'est notre permis qui est pris.
Et pour Claude, également artisan taxi, cette mesure frise même la démagogie.
C'est du buzz écologique et de la pompe à fric. Déjà, 50 en ville, dans certains endroits, c'est assez compliqué à tenir. Alors 30, c'est impossible à tenir. Donc de toute façon, c'est le carrière caisse qui va marcher pour eux. Ils vont gagner de l'argent.
Et pourtant, Bénédicte Levionnet, en charge des transports à Nantes Métropole, l'assure. L'idée n'est pas de traquer le conducteur à chaque coin de rue.
Il n'y aura pas un policier d'installer derrière chaque panneau 30. Nos policiers ont autre chose à faire, je pense.
Il y aura forcément des radars, notamment des radars pédagogiques. Dans un premier temps, l'idée, c'est aussi, par la pédagogie, de faire passer les choses.
Ces choses, c'est encourager les transports en commun et promouvoir les déplacements doux, non bruyants, non polluants.
Bientôt, les vélos, ils iront plus vite que nous.
Salem aussi est taxi à Nantes. Et pour lui, conduire à Nantes, non seulement c'est difficile, mais ce serait même dangereux.
Mais il y aura des risques de déconcentration puisque 30 km/h, vous ne serez plus autant concentré, vous regarderez plus à gauche, à droite les choses qui se passent.
Cette mesure, en tout cas, est soumise à une consultation citoyenne. Elle est ouverte jusqu'au 15 octobre.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 à Nantes. Eux vont bien plus vite que 30 km/h. Les coureurs du Tour de France ont bouclé aujourd'hui la troisième étape entre Nice et Sisteron. Julien Alaphilippe conserve son maillot jaune, mais à l'arrivée, Axel May, c'était un Australien qui avait les bras levés. Victoire du sprinter Caleb Ewan.
Oui, au terme d'un impressionnant sprint où il a remonté tous ses adversaires, Caleb Ewan remporte son premier succès sur ce Tour de France qui s'ajoute à ses 3 victoires de l'an dernier. Un succès acquis devant du public, car contrairement aux étapes niçoises, les spectateurs étaient autorisés, malgré le coronavirus, à assister à l'arrivée. Ewan, natif de Sydney, a un surnom, la fusée de poche, car il n'est pas très grand et a une position très ramassée sur le vélo. Quant à Julian Alaphilippe, il reste comme on pouvait s'y attendre au regard du profil de l'étape, en jaune, tout souriant derrière son masque, même s'il aurait aimé que son coéquipier, le champion d'Irlande, Sam Bennett, s'impose au sprint.
C'était une belle journée pour profiter du maillot, avec toute l'équipe qui a bien contrôlé, donc c'était vraiment super. Et voilà, on a tenté avec Sam pour le sprint, il termine deuxième, donc c'est comme ça.
Et puis la mauvaise chute d'un coureur de l'équipe Cofidis, Anthony Pérez, a été victime d'une crevaison, mais en revenant sur le peloton, il n'a pas pu éviter une voiture d'équipe qui a freiné devant lui. Bilan, Anthony Pérez souffre d'une fracture ouverte d'une côte, d'un pneumothorax et a été hospitalisé à Digne-les-Bains où il devrait rester en observation plusieurs jours.
Axel May qui, avec Marguerite Lefebvre, nous font vivre ce Tour de France 2020. En foot, deux joueurs du PSG suspectés d'infection au Covid-19. C'est le club qui l'annonce ce soir. Les deux footballeurs dont l'identité n'a pas été révélée présentent un état de santé tout à fait rassurant selon le Paris Saint-Germain. On passe à la météo de demain.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Anissa Haddadi, demain marquera le retour du soleil.
Oui, ça y est, enfin Julien, on est content. Hein. Et tout ça, c'est grâce à l'anticyclone. On aime bien quand il est là, celui-ci. Il revient à l'ouest et le temps s'améliore. Alors sur une grande partie du pays, demain, le soleil s'installe et c'est une journée plutôt agréable, avec toujours tout de même à l'est un temps instable de l'Alsace. Aux Alpes, la journée va commencer avec des grisailles et puis dans l'après-midi, en Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, nous aurons quelques gouttes dans l'après-midi, mais ça sera très léger. Hein. Dans la vallée du Rhône, le Mistral faiblit, mais il est toujours bien présent. Et puis sur les Cap Corse, là aussi, nous avons du vent d'ouest qui souffle. Alors les températures, là, elles sont fraîches. Hein. Le soleil est là, mais alors ça ne fait pas remonter le thermomètre. Pour cette rentrée des classes, nous aurons 6 à 13 degrés seulement demain matin, 6 à Clermont-Ferrand, 9 à Rennes et Limoges, 11 à Paris, 16 à Marseille et 18 à Nice. Au meilleur de la journée, 19 à Belfort, c'est vraiment frais, 21 à Rouen et Rodez, 22 pour Paris et Quimper, 24 à Biarritz et Lyon, 26 pour Ajaccio et 28 la maximale pour Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview écho. Ce soir, Carole Ferry reçoit François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, pour évoquer notamment le nouveau protocole sanitaire qui sera appliqué dès demain dans les entreprises. A tout de suite. 22h passées de 18 minutes sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Et Wall Street débute la semaine plus prudemment, mais Tesla et Apple font encore des étincelles.
Oui, Wall Street recule légèrement, moins 0,78% sur le Dow Jones, 28 430 points. En revanche, c'est toujours la fête, effectivement, pour Tesla, qui grimpe encore de plus de 12%, 12,5%, et ça monte encore. Et Apple grimpe de 3,4%, on est au plus haut. De quoi doper le Nasdaq, l'indice Nasdaq en profite pour gagner 0,68%. C'est un nouveau record aussi, 11 775 points sur le Nasdaq. Le Dow Jones donc est ralenti par les valeurs bancaires comme Goldman Sachs, moins 1,3%. On souffle aussi sur JP Morgan, moins 2,5%. Morgan Stanley, moins 1%, dans un contexte économique toujours instable en raison bien sûr des conséquences de la crise sanitaire internationale. En revanche, donc, ces deux valeurs de technologie vedettes hein, du moment, Tesla et Apple, emmènent le Nasdaq plus haut. Tesla bondit donc de 12,5%. On est à 498 dollars. À la faveur aussi d'une division par 5 de la valeur nominale de Tesla pour rendre le dossier accessible au plus grand nombre. Même chose pour Apple, hein, qui monte de 3,4% à 129 dollars, après une division par 4 du nominal, de la valeur nominale, donc pour les mêmes raisons que Tesla, des raisons boursières. Ça donne donc un marché qui est très animé. Pas forcément euphorique sur le Dow Jones, mais toujours plus haut sur le Nasdaq. Sur les devises, c'est beaucoup plus calme. L'euro reste ferme à plus de 1,19 face au dollar.
Retour en France où la Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse malgré les projets de rapprochement, on en parlait dans le journal, entre Veolia et Suez.
Moins 1,11%, une baisse assez nette hein, sur le CAC 40, 4 947 points, malgré effectivement cette effervescence autour du projet de mariage entre Veolia et Suez dans le traitement des eaux et des déchets. Veolia a donc offert à Engie 15,50 euros par action pour lui racheter ses actions dans Suez. Un prix jugé sans doute un petit peu trop juste par Engie, alors que Suez compte bien pour sa part conserver son indépendance. Vous en parliez effectivement tout à l'heure. Suez, en attendant, a flambé de 18,5% ce soir. Veolia a progressé de 5,7% et Engie a gagné 4,7%. Pas suffisant donc pour soutenir la tendance du CAC 40, plombée par la rechute des valeurs bancaires. Ici aussi, Natixis, moins 6%, Société Générale, moins 5%, BNP, moins 3%. Baisse aussi de l'aéronautique, ça redescend sur le secteur aéronautique avec Safran, moins 5%, Air France, moins 4%, Airbus, moins 3% avec Thales. Ailleurs, sur les autres places financières en Europe, ça baisse partout. Francfort, moins 0,8%, début de semaine en baisse aussi à Bruxelles, moins 1%, Madrid, moins 2,3%, Milan, moins 1%. Et puis donc le CAC 40 en baisse ce soir, on le rappelle, d'1,11%. 4947 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à demain. 22h, passé de 21 minutes sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Carole Ferry, vous recevez ce soir François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
François Asselin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Ça y est ? On connaît le fameux protocole sanitaire pour les entreprises à partir de demain matin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises dès demain matin ?
Alors, permettez-moi l'expression, mais quel accouchement ! Ça aura été très compliqué. Et c'est assez révélateur dans un pays comme le nôtre, un pays moderne, comment faire simple ? Eh bien, c'est compliqué. Et c'est le cas. Ce protocole fait quand même 25 pages. C'est un document qui s'adresse à toutes les entreprises de France, donc qui devraient être assez vulgarisées. Or, c'est relativement technique. Par contre, je peux dire que la CPME a quand même été entendue sur des points très concrets.
Alors, concrètement, quel point, par exemple ?
Oui. Oh, ben, les véhicules utilitaires. Vous saviez que dans la première version, grosso modo, il fallait ne mettre personne à côté du chauffeur. Or, je ne connais pas beaucoup de véhicules utilitaires qui ont deux banquettes, si vous voulez. Il y en a très peu. Maintenant, quand vous montez dans un véhicule utilitaire, si vous êtes deux, eh bien chacun doit avoir le masque. Comme ça, vous pouvez rouler à deux dans un véhicule utilitaire. Ça permet à toute la France, que je qualifierais de laborieuse, de continuer à faire son travail. Ça, c'est une bonne chose. Il y a la question concernant les grands espaces clos. Vous avez parfois deux opérateurs, deux personnes dans un atelier. Alors, on prend souvent l'exemple du garage, mais vous avez plein d'autres activités avec des ateliers. Effectivement, imposer le port du masque quand vous avez deux personnes, je ne sais pas, moi, dans 200 ou 300 mètres carrés, admettez que c'est quand même très contraignant, alors que le risque est très faible. Et bien là, si nous sommes, alors il y a trois zones, si nous sommes dans une zone verte, à savoir avec très peu de cas d'épidémie, eh bien vous pouvez vous affranchir du port du masque si vous ne travaillez pas à côté, bien sûr, de votre collègue. Et puis, si vous avez une visière à disposition, là aussi, ça laisse un petit peu plus de liberté.
Pourtant, on dit que la visière ne protège pas très bien.
Oui, elle ne protège pas très bien si vous êtes effectivement à moins d'un mètre de quelqu'un d'autre. Elle protège des projections de salive, par exemple, mais elle ne protège pas de la partie aérosol du virus qui peut bien sûr être aéroporté.
Qu'est-ce qui est dit pour les zones rouges ?
Alors, pour les zones rouges, vous savez, ce sont les zones où il y a une forte poussée épidémique. C'est le cas actuellement de Paris, par exemple. Eh bien, le port du masque doit être la règle dans les espaces clos. Ensuite, si vous avez un environnement ventilé par le haut, c'est là où ça devient très technique, donc avec des ventilations mécaniques contrôlées, ce qu'on appelle les VMC opérationnelles. Si le volume est assez suffisant, mais on ne précise pas ce que c'est que le volume suffisant, eh bien vous pouvez vous affranchir quelques temps du masque dans une journée si vous avez besoin tout simplement de respirer 5 ou 10 minutes. On ne vous précise pas le temps pendant lequel vous pouvez vous affranchir du masque, à condition d'avoir à disposition, là encore, une visière, et vous devez remettre votre masque dès que vous avez repris votre souffle.
Donc ça reste quand même très compliqué.
Oui, ça reste, il faut l'admettre, surtout dans les zones où il y a une forte poussée épidémique, c'est compliqué. Et là, il faut vraiment se dire que le port du masque doit être systématique, donc quasiment obligatoire.
François Asselin, qu'est-ce qu'il en est de la rentrée économique ? Dans quel état d'esprit sont les entreprises ?
Les entrepreneurs, en tout cas ceux que je représente, ce sont souvent ce qu'on qualifie les entrepreneurs patrimoniaux, qui sont à la tête eux-mêmes de leur entreprise. Elles sont plutôt d'un naturel optimiste parce qu'on n'a pas trop le choix. Et vous savez, ça fait des mois qu'on travaille avec cette contrainte du coronavirus. On a trouvé beaucoup de solutions avec nos salariés. On a envie que d'une seule chose, c'est que ça reparte le mieux et le plus rapidement possible. Et on a les moyens de le faire. Alors c'est sûr, on a cette nouvelle contrainte, ce nouveau protocole, mais il ne faut pas que ça nous empêche tout simplement de travailler. Porter le masque, c'est une vraie contrainte, mais ça n'empêche pas de travailler. Donc on va faire en sorte de faire contre mauvaise fortune bon cœur, d'y aller, il faut continuer, il faut que le pays tourne, c'est très important. Si le plan de relance est efficace, si le calendrier est tenu, on a de quoi espérer. Ça va être compliqué, je ne vous le cache pas, il va y avoir beaucoup de victimes, malheureusement, parce que nous arrivons à l'heure de vérité. Mais écoutez, nous sommes des courageux, nous sommes des optimistes, et bien on va tout faire pour s'en sortir.
Mais quand on dit qu'il va y avoir beaucoup de défaillances d'entreprise ?
Oui, pourquoi ? Parce que les entreprises étaient en suspension jusqu'à maintenant, dans la mesure où vous pouviez décaler tout ce que vous deviez payer en termes de charges, de remboursement d'emprunt, et ça va s'arrêter. Donc ce qui vous empêchait de tomber, eh bien aujourd'hui risque de vous faire trébucher. Il va falloir continuer à accompagner le plus grand nombre et faire en sorte que les entreprises qui avaient un modèle économique viable avant cette période Covid repartent le plus rapidement possible. C'est ça en tout cas la CPME qui nous préoccupe le plus et croyez-moi bien, on y travaille d'arrache-pied.
L'emploi des jeunes, le gouvernement insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment embaucher des jeunes. Il y a des aides de proposer. Est-ce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont prêts à le faire ?
Bien évidemment. Vous savez, le premier acte qui fait que vous embauchez, c'est si vous avez de l'activité ou pas. Quand vous voyez votre carnet de commandes se remplir, ou potentiellement il va se remplir, là, vous passez à l'acte d'embauche. Vous allez recruter, que ce soit en alternance ou en embauche directe. Et si vous avez des aides ciblées vers ces jeunes, eh bien, ça vous permet parfois de franchir le pas alors que vous auriez pu être hésitant. Donc, bien évidemment, les entreprises vont jouer le jeu. Par contre, si vous n'avez pas d'activité, vous aurez beau avoir toutes les aides qu'on vous propose, vous n'allez pas recruter malheureusement. Donc, d'où l'intérêt que ce plan de relance soit efficace le plus rapidement possible.
François Asselin, merci. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Carole Ferry. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire à la une de vos journaux demain matin. Masque au travail, pourquoi faire simple, titre en une, l'opinion. Quelques heures avant son application, le gouvernement, vous le savez, a publié ce soir le nouveau protocole définissant l'obligation du port du masque en entreprise et ses dérogations. Les règles, les exceptions et les contraintes diffèrent selon les différentes zones de circulation du virus. Un ajustement qui risque d'être source de confusion pour les plus petites entreprises, écrit le quotidien. Même au sein du gouvernement, on le reconnaît. Ce n'est pas très simple à expliquer. Un casse-tête, titre pour leur part les Échos. Il sera possible de retirer son masque de manière intermittente, mais à condition de remplir plusieurs conditions, ventilation, visière ou encore surface par salarié. Autant de conditions qui deviennent de plus en plus compliquées à remplir si votre département passe en orange ou en rouge. La Croix consacre sa une au pays du cèdre laïcité, le Liban à l'heure du choix. Au moment même où Emmanuel Macron revient à Beyrouth, moins d'un mois après les terribles explosions qui ont soufflé la ville, les principaux leaders libanais se sont ralliés à l'idée d'un État non confessionnel, écrit le quotidien. Aujourd'hui, au Liban, l'organisation du pouvoir est établie en fonction du critère confessionnel et de fait, ce système a favorisé le népotisme, le clientélisme et la corruption, écrit Jean-Christophe Ploquin dans son éditorial. Hier, le président Aoun a proposé qu'à la faveur d'amendements constitutionnels, le Liban soit déclaré État laïque. Et c'est d'autant plus remarquable, explique l'éditorialiste, que ce président est soutenu par un mouvement islamiste, le Hezbollah, dont le nom signifie littéralement « parti de Dieu ». On voit donc mal comment cette formation pro-iranienne pourrait accepter de distinguer État et religion. C'est pourquoi le chemin des réformes risque d'être difficile. Mais si le Liban y parvient, alors il rayonnera à nouveau dans tout le Moyen-Orient, conclut Jean-Christophe Ploquin dans la Croix. On termine avec le Dauphiné libéré qui dresse en une le bilan d'un été hors norme. Après avoir vu un quart de son activité se volatiliser au printemps, comment s'en est donc sorti le secteur du tourisme ces derniers mois? Eh bien, pas si mal, écrit le quotidien Rhône-Alpin, campagne, lacs et moyenne montagne ont notamment tiré leur épingle du jeu, écrit le Dauphiné libéré. Voilà donc ce que vous pourrez lire en partie demain dans vos journaux. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très bien.
En ce début de semaine ?
Très bien, je suis requinqué.
Bon, très bien, le week-end s'est bien passé ?
Parfaitement.
Bon, Eh bien, nous voilà, vous et moi, en pleine forme pour attaquer cette semaine. Donc.
Et pour attaquer la libre antenne avec les auditeurs qui peuvent vous joindre à tout moment au 39-21.
Exactement. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour le flash à 23h.
Je serai là. À toutes.